Nous allons parler du miracle. Faut-il croire au miracle? C'est toute la question et on espère peut-être ce soir avoir quelques réponses. En tout cas, c'est la thématique choisie par la Fondation de Mont-Saint-Michel ici dans le cadre du prieuré pour cette nouvelle rencontre que j'ai le plaisir de présenter. D'un point de vue pratique, nous avons à peu près une petite heure pour que nos intervenants puissent précisément intervenir sur ce thème-là. Et éventuellement, après, ce que je souhaite, c'est que, évidemment, vous puissiez, si vous le souhaitez, évidemment, poser des questions, toutes les questions qui seront utiles au débat et à cette thématique. Alors, je vous présente nos intervenants. À côté de moi, Patrick Valtiero, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes journaliste, docteur en histoire. Vous avez soutenu votre thèse de docteur en histoire à l'école pratique des hautes études. Jusque-là, tout va bien?
Tout va bien.
Votre thèse est portée sur les commentaires de la règle de Saint-Benoît dans la France moderne. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un débat ici. À propos de la règle de Saint-Benoît, vous êtes aussi le directeur de la revue Mélange Carmélitaine.
J'étais.
Vous étiez.
Je ne suis plus.
Personne n'est parfait. Donc vous étiez. L'objectif de cette revue, je le rappelle pour ceux qui n'en sont pas des habitués, c'est de promouvoir l'étude de l'histoire religieuse, de la spiritualité et de la mystique chrétienne. C'est un programme qui nous rapproche précisément de la thématique de ce soir. Vous êtes l'auteur, Patrick Valtiero, de nombreux ouvrages. Il y en a un certain nombre ici qu'on peut trouver. L'histoire du Mont-Saint-Michel, par exemple, l'enquête sur les exorcismes, les lieux de hantise en France, on en parlait tout de suite. Un ouvrage aussi sur Anthony Gaudy, l'architecte de Dieu, et une enquête parmi les voyants, entre autres. Dont Maurice Franc, on ne vous présente quasiment plus, puisque vous êtes du pays, si j'ose dire. Enfin, depuis l'automne 2021, vous avez succédé comme recteur du Mont-Saint-Michel à Riton, bien connu, le père Henri Gessmier. Vous êtes donc présent depuis 2021, depuis l'automne 2021, et le père Riton, lui, était en poste, si j'ose dire, depuis 2010. Vous avez été curé de paroisse, enfin vous êtes curé de paroisse, vous avez été curé à Fayence, qui est une belle région, très éloignée de la nôtre, c'est la Provence, mais aussi à Nogent-le-Roi, et également à Biarritz. Votre parcours de vie est singulier, puisque je ne trahis pas les secrets, vous étiez militaire de carrière avant, et vous avez été ordonné prêtre en 1992, c'est ça? J'ai une question à vous poser avant qu'on démarre le débat. Comment vont vos genoux?
Eh bien, écoutez, tout le monde me dit, c'est merveilleux, au Mont, c'est superbe pour le cœur, la cardiologie. Merveilleux, c'est vrai, mais mes genoux commencent à être un peu en capillotane, et les vacances que je vais prendre vont me permettre effectivement de les remettre en place à force. J'ai jamais autant consommé d'huiles essentielles.
Alors, je vous ai posé la question parce que c'est une des premières réflexions que vous avez eues en rencontrant la presse il y a maintenant un an et demi, en disant je vais faire attention à mes genoux, je crains pour mes genoux. Donc, et notamment dans la presse d'ailleurs, j'ai lu que vous souhaitiez, alors je ne sais pas si ça a été le cas, mais faire en sorte que le sanctuaire collaborer assez étroitement avec une cité qui est emblématique de la thématique dont on parle aujourd'hui, la cité de Pommain. Je rappelle, en 1871, vous voyez, les enfants Barbedette ont vu la Vierge dans cette petite grange au cœur du village. Alors, vous nous direz d'ailleurs si Pommain et le sanctuaire du Mont-Saint-Michel ont fait un lien particulier. Et vous m'avez tout de suite d'ailleurs que vous aviez fait, je ne sais pas si c'est un miracle ou pas, vous aviez souhaité faire entrer le sanctuaire du Mont dans le numérique et les réseaux sociaux. On est loin du miracle, mais on va Serge François, vous êtes au centre de la table et vous êtes notre témoin, si j'ose dire, acteur, témoin et acteur de ce que vous appelez une grâce de guérison. Ça s'est passé le 12 avril 2002. Vous êtes à ce jour le 68e, je crois que c'est le 68e miraculé, reconnu miraculé de Lourdes. À ce jour, de mémoire, il y a 71 personnes qui sont considérées par le 71 considérées comme miraculées au terme d'une d'une procédure très compliquée et très complexe dont vous pouvez nous parler. Vous avez été opéré d'une hernie discale en 1997.
Oui,
et avec un traitement particulièrement lourd, et vous avez eu l'occasion à maintes reprises de raconter ce qu'a été votre parcours et votre histoire avec les mots qui sont les vôtres et avec des rencontres inattendues, et je vais vous laisser vous en parler, notamment la rencontre au sanctuaire de Lourdes, la rencontre d'une petite jeune femme qui avait été délaissée, je crois, par son mari, et vous lui avez, vous avez essayé de la rassurer, avant vous-même d'être acteur de ce miracle dont nous allons parler, vous lui aviez dit, faut pas s'inquiéter, Marie, alors je reprends vos termes, hein, Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit et ça va aller. Bon, ça va aller. Et vous racontez aussi un phénomène qui s'est passé, et notre ami Patrick Sbalquiero va être particulièrement intéressé parce qu'on parle du surnaturel. Là. En l'occurrence, vous étiez dans votre hôtel à Lourdes, c'était l'hôtel Basilique, je crois, et c'était la chambre 413.
413.
Et, bon, et dans la chambre, et vous sortez de votre chambre et vous apprêtez à rejoindre le sanctuaire de Lourdes et bizarrement, il se passe un phénomène incroyable, les portes de l'ascenseur s'ouvrent comme par magie, comme si on vous invitait, ou comme s'il y avait quelqu'un derrière vous qui vous poussait, c'est ce que vous racontez. Je vais arrêter là, parce que c'est à vous de parler, de nous parler de votre miracle, et je reviens à ce que je disais il y a un instant, faut-il croire au miracle? Quelle est la place du surnaturel dans tout ça? Quelle est la place aussi du scientifique dans tout ça? Quelle est la place des croyances? Voilà, c'est autant de sujets dont nous allons parler. Voilà, je m'arrête. Monsieur François, d'abord, encore un grand merci pour avoir fait le déplacement depuis le Maine-et-Loire, c'est pas si loin, mais bon, et d'avoir eu la possibilité de nous rencontrer ce soir. M'arrêter là, parce que j'ai... Voilà, je vais me mettre là comme ça. J'espère que bon. Je vous laisse.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Serge François, comme on disait. Donc, j'habite effectivement dans Maine-et-Loire, hein, donc la région de Cholet, pas très loin du Puy du Fou pour se situer. Ouais, donc, voilà, donc je suis ici pour vous parler des guérisons miraculeuses qui ont lieu à Lourdes chaque année et à environ plusieurs centaines tous les ans. Il y a très peu de guérisons qui sont reconnues, mais il y en a plusieurs centaines tous les ans. Aujourd'hui, il y a 71 guérisons miraculeuses et il y en a eu plus de 12 000 déclarées, telles que moi. Alors voilà, donc tout ce qui s'est passé, là, je vais vous raconter mon histoire. Le 2 juin, à l'époque j'étais artisan, hein, j'avais une petite entreprise qui tournait très bien, télé, ici, vidéo, antenne, hein, j'étais obligé de tout laisser tomber, bien sûr. Le 2 juin 1997, je subissais une intervention chirurgicale pour la colonne vertébrale pour une banale hernie discale. Et là, à la suite de cette intervention, j'ai fait un énorme hématome péridural par une négligence, ce qui m'a occasionné une paralysie totale de la jambe gauche avec une compression de la moelle épinière. Après plusieurs mois de traitement antalgique, soins de kiné, centre de rééducation, cœur thermal, donc je n'avais absolument aucune amélioration. Mon rhumatologue, le docteur Zanetti de la polyclinique de Cholet, m'a alors adressé sur un centre antidouleur de Nantes pour la mise en place d'un site péridural permanent. Site péridural que j'ai eu en service jusqu'en avril 2002. Bon, dans ce site péridural, j'avais tous les jours, quatre médicaments qu'une infirmière m'injectait à domicile. Donc, je peux aussi, vous voulez que je vous donne ce qu'on m'injectait? Non. Donc, j'avais quatre médicaments. Donc, à ça, ça coûtait une douzaine de comprimés antalgiques. Et par la suite, on m'a prescrit des patchs de morphine à coller sur la peau remplacée tous les 3 jours. Donc, j'ai eu ce lourd traitement jusqu'au 12 avril 2002. À savoir que le 13 avril au matin, je ne prenais plus aucun traitement antidouleur, que je n'ai jamais d'ailleurs repris depuis. Le seul traitement que j'ai aujourd'hui, c'est un traitement pour l'hypertension. Donc, c'est tout ce que j'ai. Alors, en avril 2002, j'étais en pèlerinage à Lourdes, comme malade, et que j'étais comme hospitalier malade, parce que j'étais hospitalier brancardier à Lourdes depuis 1992, avant de tomber malade. Donc j'étais comme hospitalier malade, et là j'étais comme malade à l'hôtel Basilic, comme le disait monsieur, c'est comment déjà
Philippe.
Donc comme le disait Philippe, j'étais comme, je monte à l'hôtel Basilic, à chambre 413, 4e étage. Voilà. Donc ce vendredi 12 avril, c'était le jour du sacrement de l'onction des malades qui avait lieu à l'église Saint-Bernadette, juste en face de la grotte. À la fin de l'onction, j'avais une petite malade qui se trouvait à côté de moi, qui était prise d'une crise de sanglots. J'ai essayé de la consoler du mieux que je pouvais. Je l'ai pris par la main, puis je lui ai dit, vous savez, Marie est là, parce qu'elle avait confié qu'elle avait des gros soucis familiaux, en particulier avec son épouse. Puis là, je lui ai dit, vous savez, Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit, je suis sûr qu'elle va vous venir en aide. À ce moment, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé tout le corps. J'étais gelé, glacé, frigorifié. Ça m'a serré fortement la tête. Je me demandais ce qui se passait. Et puis ça s'est passé. Sur le moment, j'ai pensé, tiens, j'avais un peu de froid parce qu'en avril 2002, il tombait beaucoup d'eau. On a retrouvé plus de la neige. En fin de compte, c'était le tout premier signe de Marie. Le soir de l'onction, je parle pas trop vite, ça va? Le soir de l'onction, j'assistais à la procession mariale de la fenêtre de ma chambre, de l'hôtel Basilic, comme je le disais tout à l'heure, chambre 413, 4e étage. À la fin de la procession, qui s'est terminée aux environs de 22 heures, j'ai eu une soudaine envie de me rendre à la grotte. Je me suis donc habillé chaudement, fait pas chaud dehors. Quelques instants plus tard, en parcourant le long couloir de l'hôtel, qui est à peu près loin comme la pièce là, donc en parcourant le long couloir de l'hôtel, j'ai eu d'étranges sensations, comme une présence à mes côtés. J'avais l'impression d'être suivi. Je me suis retourné à 2 reprises. Il n'y avait personne. Et pourtant si. Je peux vous garantir si. Ce n'est qu'après, au fil des événements, que j'ai vraiment réalisé que c'était Marie qui était derrière moi, que j'entendais des bruits de porte, et il n'y avait personne. On n'était pas normal. Arrivé devant l'ascenseur, là je me trouvais à environ 1,50 m de la cage d'ascenseur, avant que je ne fasse le moindre geste, il n'y avait personne dans le couloir. Là, les portes de l'ascenseur sont toutes seules. Sur le moment, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Alors j'ai hésité, bien entendu, j'ai claqué, de toute façon, c'est marqué, non, c'est quoi ce truc, les portes de l'ascenseur? Et donc, j'ai hésité à prendre l'ascenseur, mais j'avais pas le choix. Je vais descendre 4 étages comme ça, je pense que c'était impossible. Arrivé à l'accueil de l'hôtel, j'ai demandé au gardien de nuit si ça arrivait souvent que les portes d'ascenseur s'ouvraient toutes seules. Il m'a dit non, ça ne m'a jamais été signalé. Puis là, il me souffle tranquillement à l'oreille, il y avait du monde qui rentrait de la procession. Il me dit, vous savez, nous sommes à Lourdes, c'est peut-être un signe de Marie. Honnêtement, lorsque je suis sorti de l'hôtel pour me rendre à la grotte, j'ai tout simplement pensé que le gardien de nuit s'était moqué de moi. J'étais loin de penser dans ce qu'il allait m'arriver ce soir-là au pied du rocher de Massabielle. Je me suis rendu à la grotte péniblement, très très péniblement. Je marchais en boitant, en raclant le sol, maintenant tout ce que je trouvais sur mon passage. Normalement, je marchais avec des canons de glace, on m'avait même condamné au fauteuil roulant que j'ai toujours refusé. Donc, arrivé devant la grotte, j'ai renouvelé toutes mes intentions de prière pour des malades, que des malades m'avaient confiées. C'était la première chose, je priais beaucoup pour les autres. Pour ainsi dire, jamais pour moi. C'est une chose que je ne pensais pas. Ensuite, j'ai récité une dizaine de « Je vous salue Marie ». Et tout en récitant ma dizaine, à un moment, en regardant par terre, je me suis rendu compte que mon pied gauche, qui était handicapé, reposait dans un carré qu'il y avait sur le sol. Et dans ce carré, qu'est-ce qu'il y avait marqué ? Place où priait Bernadette le 11 février 1858. C'était le troisième signe, ça. Parce que le premier signe, c'était le sacrement des malades, les portes de l'ascenseur qui sont ouvertes toutes seules, quoi. Et puis après, donc, c'est vrai que le troisième signe, comme on dit, c'est là, je me suis rendu compte que mon pied reposait dans l'endroit où Bernadette Soubelou a eu la toute première apparition. Ça, c'était les trois signes. Voilà, ça, c'était une chose qui est toujours restée. Donc, après, je ne sais plus où j'en suis, là, je suis trop plein.
Vous avez dit, il y a des signes et puis il y en a un autre signe, c'est que vous avez retrouvé la jeune femme.
Ça c'est après ça. Ah. Oui, oui.
Alors, j'essaie de vous relancer.
Oui. Non, mais ça. Ça. Donc, ensuite, je suis passé avec moi. Et là, j'étais en admiration devant la source qui coulait. Elle est si belle la source ce soir, dans la lumière. Soudain, j'étais pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Je revoyais ma malade de l'autre sur l'après-midi. Je me suis senti comme soulevé, comme transporté dans un autre monde. C'était beau, c'était magnifique. Si vous aviez vu comme c'était beau, c'était tellement beau, tellement magnifique que j'aurais voulu y rester. Ça m'a fait comme un flash, une immense lumière, une lumière très très douce, très douce. C'est une chose qu'on n'oublie pas. Vous voyez, c'est toujours ce que je dis dans mes témoignages. Si c'est ça, ce qu'on appelle le passage vers le Père, croyez-moi, n'ayez aucun souci à le faire. Parce que depuis ce soir-là, je suis en mesure d'affirmer que le passage de notre vie sur la Terre, ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Ensuite, je me suis dirigé aux fontaines, parce que je n'étais pas guéri. Là, j'ai pris une tabac d'eau. Comme le message de Marie à Bernadette, allez boire à la fontaine et vous y allez. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une tabac d'eau que j'ai bue, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Mais je ne suis pas allé très loin. Après avoir parcouru quelques mètres, 8 à 10 mètres environ, là j'ai été pris d'une douleur fulgurante dans toute ma jambe gauche. Une douleur qui m'a littéralement fait perdre l'équilibre et je me suis écroulé. Plusieurs personnes qui étaient à boire de l'eau en fontaine après la procession sont accourues pour me porter secours. Elles m'ont aidé à me relever. Et avec leur aide, j'ai réussi à m'appuyer sur un des gros arbres qui avait en face des fontaines. Et là, la douleur avait réapparu. Une douleur qui partait du bas de ma colonne vertébrale jusque dans mon pied gauche. Mais limite supportable. Et au bout d'environ 3-4 minutes, tout est rentré dans l'ordre avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe gauche était toujours froide, glacée, sclérosée. C'était soudainement réchauffée. Elle devenait brûlante. Même en plein été, j'étais obligé de mettre une bouillotte, tellement ma jambe était glacée. Là, sur le moment, je n'ai pas compris. Je suis parti précipitamment en direction de la porte Saint-Joseph. Et c'est arrivé à moitié de la côte Saint-Joseph que j'ai réalisé que Marie était venue vers moi. Arrivé en haut de la porte Saint-Joseph, et en parcourant les quelques centaines de mètres qui me séparaient de mon hôtel, je me suis dit, serre, mon bonhomme, c'est trop beau pour être vrai. Demain matin, tu vas te réveiller, ça va être comme d'habitude. Et non, le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Ma jambe était bouillonnante. Première chose que j'ai fait, c'était me confier au prêtre qui était avec nous à l'hôtel, à Florence Girardot de Longue et Jumelle, côté de Sauveur. Donc, lorsqu'il m'a ouvert la porte, il m'a dit, Serge, que t'arrives-tu de si bon matin? J'ai dit, voilà mon père. Hier soir, pendant la procession, je me suis rendu à la grotte et je crois que j'ai reçu la visite de Marie. En quelques mots, je lui ai raconté mon histoire, telle que je viens de vous la décrire. Là, il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Jésus, Marie-Joseph, merci ». Alors, sur conseil du père Florent, je me suis rendu au bureau médical pour déclarer ma guérison. Donc, à l'époque, c'était le docteur Tétier qui était au bureau médical. Bon, on signe un formulaire que l'on signe et on nous laisse tranquille pendant une année pour être sûr que la guérison est bien, bien, durable, sans aucun médicament. Si vous prenez des médicaments, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Il faut que ça soit durable sans médicament. Et donc, voilà, c'est, ça se passe comme ça. Alors, pour notre dernier jour de pèlerinage, j'ai donc accompagné un malade tout au long de la journée aux différentes cérémonies dans le sanctuaire. C'est un malade originaire d'Angers. Il s'appelle M. Gonzalez. Il était accompagné de son épouse. L'après-midi, c'est là que je reviens, que, alors que je plaçais mon malade à la basilique souterraine d'Apidis, quelle n'a pas été ma surprise? Qui est-ce que j'ai revu? Ma malade de l'abbé de Lonceau. Alors là, lorsque j'ai vu cette petite malade, j'ai dit, c'est pas possible, cette petite malade. C'est l'envoyé de Dieu, c'est mon ange gardien. Hein, je lui ai dit bonjour, je lui ai pris dans mes bras. Hein, c'est... Et puis là, je pourrais dire franchement que c'est pas moi qui ai consolé la malade. C'est la malade qui m'a consolé. Nous étions serrés l'un contre l'autre, nos larmes ruisselaient sur nos deux visages. C'est un moment émouvant que je ne voudrais pas. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Je peux continuer?
Vous pouvez continuer, on va demander, avant de continuer, on va demander à vos voisins qui vous écoutent avec façon religieusement, on va dire. J'ai vu dans mon liste qui vous regarde avec des grands yeux et qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Et j'ai vu aussi notre ami qui prend des notes. On voit bien l'universitaire là, qui prend des notes sur ce que vous dites. Il y a quelque chose qui, si j'ose dire, qui est un peu un trait commun à tout ce que vous nous racontez. Vous avez beaucoup parlé de signes, des signes de Dieu, des signes de Marie. Le signe, c'est le signe du miracle, ça, dans Maurice. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Jean-François?
Alors, la première chose, si cela m'inspire, j'ai l'impression de lire une page d'Évangile, et Jésus passait au milieu d'eux, et il faisait du bien. Alors, bien sûr, là, nous sommes à Lourdes, dans l'intercession de la Vierge Marie, mais c'est la grâce divine qui passe à travers la prière de Marie et qui vient pour donner ce signe. Parce que oui, nous sommes dans le signe. Et il est très important de savoir que l'Église ne refuse pas ces signes, mais pour autant, elle veut être sûre d'une certaine manière que ce sont vraiment des signes. Le miracle, le surnaturel, nous le vivons tous les jours de manière différente. Ce matin, à 11h, je célébrais la messe, et dans la foi du prêtre que je suis, le pain et le vin sont devenus corps et sang du Seigneur, dans son corps, son sang, son âme humaine et sa divinité. Donc, le surnaturel, je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin bon...
Si, on a réduit un petit peu...
Je fais confiance.
Je fais confiance.
Mais pour revenir juste pour une seule phrase, effectivement, c'est comme dans l'Évangile, c'est-à-dire que le miracle n'est pas là pour susciter la foi, il vient pour renforcer. Si vous voyez, si vous allez dans l'Évangile, que vous avez certains qui arrivent en disant « Si tu le peux, est-ce que tu pourrais ?» Et là, ils se prennent un vent par Jésus en disant « Mais vous y croyez ou vous y croyez pas ?» Alors que quand ils viennent le voir en disant « Si tu le veux que je sois guéri », alors là, ben, Jésus craque généralement, complètement, et dans sa tendresse et sa miséricorde. Mais voilà, le miracle n'est pas là pour susciter la foi. Par contre, il est un signe de la tendresse, de l'amour et de la toute-puissance de Dieu qui vient dans notre vie par l'intercession notamment de la Vierge Marie. Et moi, effectivement, je suis très ému.
Est-ce qu'il y a, dans votre esprit, par rapport à ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on fait le distinguo entre le surnaturel et le miracle?
Moi, je pense qu'il faut faire un distinguo parce que le surnaturel n'est pas un miracle. Le surnaturel, la surnature, c'est Dieu. Donc, c'est deux choses qui sont effectivement... Le miracle va intervenir par le surnaturel, par Dieu, mais le surnaturel en quelque chose,
en tant que tel, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est Dieu lui-même, et nous sommes, nous vivons, il porte notre existence tous les jours. Donc, le surnaturel en tant que tel, c'est, voilà, c'est Dieu.
Lorsque Serge-François raconte le début de cette aventure incroyable, il va poursuivre dans un instant, mais lorsqu'il nous parle de ces portes, j'y reviens, d'ascenseurs qui s'ouvrent, je vous ai vu un peu sourire. Est-ce que ça fait sourire? Est-ce que ça tient du miracle?
Alors, ça fait partie du miracle. Le miracle, c'est pas simplement que tout d'un coup, sa jambe a explosé et qu'il s'est demandé ce qui lui arrivait. Le miracle, c'est tout ce que Dieu met en place pour que, justement, ça ne soit pas son cœur et sa tête qui explosent. Et il est préparé d'une certaine manière. Par des tout petits événements, des petits signes, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces portes? Donc, il est préparé, il y a une pédagogie, enfin, je le dis comme ça, hein, il y a une pédagogie de Dieu qui lui a permis qu'il ne prenne pas le miracle en pleine figure, et ce qui aurait peut-être été un peu vite, dur à vivre. Là, déjà, il est dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ces portes qui s'ouvrent? Qu'est-ce que c'est que ces... Voilà, etc. Donc, moi, personnellement, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du miracle. Parce que le miracle, ce n'est pas simplement la guérison, c'est tout ce qui a été mis autour par Dieu pour aboutir à ce signe de sa tendresse et de son amour pour lui, pour nous, pour chacun d'entre nous.
Pour prolonger ce que dit Maurice, Denis-François, est-ce que vous avez le sentiment, je connais un peu la réponse, mais j'aimerais bien que vous en parliez, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui vous est arrivé renforce la foi que vous avez en Jésus-Christ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que au niveau de l'Église, je me suis lancé à plein, donc je suis aumônier auxiliaire dans une paroisse à côté de chez moi. Hein, donc je m'occupe des malades, des personnes handicapées, de l'EHPAD, à raison de deux demi-journées par semaine, avec mon épouse qui en fait partie aussi. Hein, nous visitons donc un ensemble de convalescents et d'handicapés de 134 lits toutes les semaines, hein, deux après-midi complets.
Ce qui vous est arrivé, cette grâce de la guérison que vous nous avez, dont vous avez raconté le début à Lourdes, vous le racontez aujourd'hui des années plus tard en n'oubliant aucun des détails. C'est-à-dire que, en fait, c'est inscrit dans votre aujourd'hui, non seulement dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre ADN, dans votre façon de vivre. C'est-à-dire que, en fait, ça a complètement changé votre vie, ça.
Ça arrive des fois qu'on oublie des petits trucs. Tout à l'heure, j'ai eu un truc. il y a peut-être la fatigue de la route ici. Hein,
Mais si vous avez monté jusqu'à l'abbaye.
On est monté jusqu'à l'abbaye. À pied, on est parti d'ici, à pied, jusqu'à en haut, puis revenir ici, avec mon épouse aujourd'hui.
Pour quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher, c'est...
Et les chemins de Saint-Jacques.
Et puis là, ça m'intéresse.
Oui,
bah,
genre, mais oui, vous allez nous parler de ça. Est-ce que ça aussi, ça tient du miracle du fait que, ou c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui marque une vie entière, le fait de se souvenir à ce point des détails qui ont marqué ce parcours de vie-là qui démarre à nous?
Bah, moi, je peux vous dire, franchement, c'est un peu comme, dans ma tête, c'est un peu comme un disque dur. Ça trotte là-dedans. Des fois, j'ai des petits moments d'interrogation, comme tout à l'heure, ça peut arriver, hein, un coup de fatigue. Hein. Et ça arrive rarement, mais ça arrive. C'est vrai qu'on a fait une bonne journée aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas un peu marre qu'on vous pose toujours les mêmes questions et qu'on vous pose la question du miracle?
Avant-hier, j'étais en témoignage à côté de chez moi, là, donc pour des collégiens. J'avais 230 élèves devant moi. Ils ont été passionnés d'entendre l'histoire telle que je vous la raconte. Mais non, je ne me lasse pas de la dire, de la répéter.
On va revenir après sur votre parcours, parce que vous n'avez pas terminé, parce qu'il va y avoir aussi, à partir du moment où vous déclarez cette guérison, tout un process, si j'ose dire, pour faire reconnaître aux yeux de l'Église le miracle. Je voudrais laisser la parole à Patrick Spalchiero, qui a pris des notes. Que vous inspire ce début de témoignage? Vous qui vous passionnez pour les phénomènes surnaturels, extranaturels, je le disais, vous avez écrit un livre référent sur les cas de hantise. Est-ce qu'on est dans des cas de hantisme et de hantise avec un bon œil et pas un mauvais œil?
Je ne pense pas qu'on soit dans le cas d'une hantise. D'abord, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier mon voisin de droite pour ce beau et poignant témoignage. Quand on étudie les phénomènes, quels qu'ils soient, de manière livresque, un petit peu abstraite, dans des livres, c'est autre chose que de voir un miracle, un miraculé en chair et en os. D'abord, ça c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais rebondir sur ce que le père a dit sur la question du surnaturel. Et bien sûr, je vais tout à fait dans votre sens. J'avais, il y a quelques années, établi... Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est très subjectif, c'est très personnel. Un petit distinguo entre surnaturel ordinaire et surnaturel extraordinaire. Dieu, l'Église, la foi, les sacramentaux, ben, tout ça c'est du surnaturel ordinaire. Vous allez à la messe, vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, etc. Et puis le surnaturel extraordinaire, eh bien, ce sont des cas comme celui de Serge, hein, des signes qui sont donnés par le ciel.
Pourquoi vous intéressez-vous à ces questions-là, l'universitaire? Pourquoi le docteur Obispo-là? Pourquoi ça vous intéresse, ou ça vous interpelle, ou ça vous fascine?
Ça m'interpelle. Ça m'interpelle depuis quelques années. Je n'étais pas du tout préparé à ça. J'ai fait la connaissance, j'en ai touché deux mots tout à l'heure, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui connaissait très bien Lourdes, pour avoir été d'ailleurs le grand historien de Lourdes au XXe siècle, l'abbé Laurentin, et j'ai travaillé 15 ans en fait à ses côtés. Mais avant de rencontrer de manière tout à fait fortuite l'abbé Laurentin, je n'y connaissais strictement rien. On peut dire les choses comme elles sont, sauf les éléments que connaît le grand public, bien sûr. Et puis c'est venu comme ça, de fil en aiguille, il m'a proposé des chantiers éditoriaux, des livres, il m'a ouvert ses archives, et donc l'aventure est un petit peu particulière.
Mais qu'est-ce que vous cherchez?
Ce que je cherche. Ah, c'est une excellente question. Par exemple, pour les miracles, puisque c'est le thème qui nous préoccupe ce soir, je crois que être croyant, et je le suis, j'essaye d'être le moins mauvais croyant possible.
C'est-à-dire être le moins mauvais croyant possible, ça veut dire quoi?
Je suis peut-être un très mauvais croyant, c'est quoi, voilà. Ce n'est pas systématiquement tomber dans la crédulité avec un C majuscule et ne pas réfléchir. Et je pense que le thème des miracles, eh bien, c'est un thème à partir duquel et sur lequel on peut réfléchir. L'Église, depuis 2000 ans, réfléchit. L'Église a statué. L'Église a promulgué un grand nombre de discours, de théologies, de droits canons concernant, eh bien, ces affaires miraculeuses. Donc, c'est un objet d'étude, évidemment, on pourrait dire intellectuel, entre guillemets, mais c'est un objet d'étude intellectuelle qui rejoint en ligne droite, bien sûr, eh bien, tout le spirituel.
On va continuer. Oui, vous opinez du...
Alors, je partage tout à fait l'idée du surnaturel ordinaire et extraordinaire. Ça me paraît tout à fait juste. Oui, l'Église est à la fois enthousiaste et prudente, c'est-à-dire que face à tous ces événements, ces phénomènes, et si on changeait de sujet, on va pas le faire, mais si on revenait sur un terrain qui vous est familier, à savoir les apparitions, avant que l'Église n'admette la véracité du surnaturel dans une apparition. Nous, en ce moment, nous avons un dossier concernant Saint-Michel avec un certain Salvo Valenti qui dit avoir des visions de Saint-Michel et l'Église qui dit ben, « non, il n'y a rien de surnaturel, donc c'est un peu compliqué, il y a une enquête, etc. » Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles l'Église veut absolument avancer le plus loin possible dans la réflexion avant d'apporter une conclusion. Donc il faut faire très très attention quand on croit, de toute façon les curés croient n'importe quoi, pas forcément.
Vous me permettrez de poser cette question, est-ce que ce que vient de nous raconter en quelques mots le début de l'histoire de est-ce que ça vous avez dit le miracle de renforcer la foi du chrétien ou sa propre foi, est-ce que ce qu'il nous
c'est évident. Pour moi, c'est un signe supplémentaire de la tendresse de Dieu qui s'adresse à un de mes frères dans la foi, à un de mes frères en humanité, mais qui vient, moi, qui résonne dans tout ce que je dis, dans tout ce que j'annonce. Et c'est sûr que demain, ce que j'annoncerai aura été, alors je ne vais pas parler du cas en question tout le temps, etc., non, mais en revanche, je serai conforté dans l'annonce de l'Évangile par ce que j'ai vécu ce soir, ça c'est évident.
Et je le disais en introduction, vous avez souhaité, en tout cas quand vous êtes arrivé ici au Mont-Saint-Michel, succédant au Père Jérémier à Riton, vous avez souhaité vous rapprocher le sanctuaire de Pontmain. Pourquoi? Parce que Pontmain, ce n'est pas anodin dans l'histoire précisément des apparitions.
Alors, il faut que je sois très honnête. Vraiment?
Bah oui.
Parce qu'à Pontmain, ils ont une capacité d'hébergement que nous n'avons pas. Et donc. C'est une des raisons. Elle ne doit pas être mise de côté. Mais j'ai surtout vu, et je vois régulièrement, un passage de Pontmain au Mont-Saint-Michel, de Mont-Saint-Michel à Pontmain. Des gens qui passent par Pontmain viennent chez nous et dans l'autre sens. Et donc, ça montre bien cette ouverture du cœur des pèlerins à tout ce que Dieu peut leur donner comme signe pour renforcer leur foi dans leur vie. Et ils sont venus au Mont-Saint-Michel pour demander au Seigneur d'être renforcés dans leur combat spirituel. Et ils vont passer par Pontmain, où ils vont demander à la Vierge Marie de les aider dans leur vie quotidienne, parce que c'est peut-être plus facile de parler de certaines choses à la Vierge Marie, comme on le voit à Lourdes, comme on le voit dans plein d'endroits, à Notre-Dame du Lot, dont je suis un grand dévot, dans les Hautes-Alpes, et où j'ai retrouvé les anges aussi, puisque Notre-Dame du Lot, c'est 400 apparitions de la Vierge à Benoît Francurel, mais c'est 700 dialogues angéliques sur les 50 ans qu'ont duré les apparitions pour la petite voyante de Benoît Francurel. Donc, il y a cette certitude qu'il y a un lien entre Pontmain et le Mont-Saint-Michel, et qui n'est pas simplement un lien d'hôtellerie, mais qui est aussi un lien spirituel, je crois, très fort.
Serge François, vous connaissez Pontmain, j'imagine. Vous êtes allé ou pas? Oui, vous êtes allé.
Oui, nous sommes allés deux fois, là, à Pontmain.
Alors, il y a un autre signe de Dieu, on parlait des pèlerinages, c'est le chemin de Saint-Jacques, qui est marqué, justement, par les signes spirituels, et que vous avez vous-même accompli. Vous avez raconté, d'ailleurs, votre départ du Puy-en-Velay, de la bénédiction des pèlerins. Vous avez grimpé le plateau de Daubrac et vous êtes allé jusqu'à Saint-Jacques avec votre prédentiale. Donc, c'est une liaison pour raconter la suite de votre parcours étonnant, de quelqu'un qui n'arrivait plus à marcher, ou quasiment pas, qui souffrait de mille maux, et aujourd'hui qui est capable de faire le chemin de Saint-Jacques, qu'il avait fait, et qui est capable, sans avoir mal aux genoux, contrairement à Christ, les marches qui mènent à l'abbaye de Mont-Saint-Michel.
Oui, alors donc je vais continuer. Hein. Donc tout est, pour en venir à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une dizaine de jours après 30 ans de pèlerinage, j'ai été pris d'une force surnaturelle. Non, d'une forte, une forte démangeaison dans toute ma jambe gauche. Alors il se trouve que sous mon pied gauche, à la suite de ma paralysie, il s'était formé une épaisse peau morte, ce qu'on appelle en jargon médical une peau cartonnée. Il m'avait toujours été impossible de faire disparaître cette peau morte. Et là, le soir du 22 avril, donc j'étais assis sur mon lit en train de me masser la jambe. Lorsque je suis arrivé au niveau du pied, j'ai vu cette peau morte se détacher en minuscules particules, laissant apparaître une nouvelle peau, comme une belle peau rosée de bébé qui avait repoussé. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute, prends des photos. Hein, c'est la chose qu'elle a fait. Elle a pris des photos, nous les avons envoyées au bureau médical, au docteur Tellier, le président du bureau médical de l'époque. Et donc, suite à cela, bien sûr, en 2003, ce qui devait arriver, on m'avait laissé tranquille toute une année, comme je vous disais, et en 2003, j'ai été convoqué devant une commission médicale à Lourdes. Lorsque je suis entré dans le bureau des guérisons, à l'accueil Jean-Paul II, au-dessus de la Vierge couronnée, là, j'ai fait plusieurs pas en arrière. J'ai eu peur. Je me suis retrouvé face à qui ? Face, là, je ne me suis pas retrouvé face à Marie, mais je me suis retrouvé face à 12 médecins. Là, j'ai eu peur. J'ai dit, pourquoi j'ai été déclaré ma guérison ? Je ne vais jamais m'en sortir.
Mais d'ailleurs, la question que j'allais vous poser, excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi vous êtes allé, vous avez demandé à votre épouse de prendre cette photo, de l'envoyer au médecin, enfin, au bureau des guérisons, pourquoi cette volonté, après tout, vous auriez très bien pu rester comme ça sans revendiquer cette guérison miraculeuse ?
Bah, comme ma guérison avait été déclarée au bureau médical, donc le 13 avril 2002, obligatoirement, mon devoir était de... D'abord, c'est ce que m'avait dit le prêtre qui était avec moi, s'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter à le signaler. Alors donc, je l'ai signalé, ça, c'était important. Alors donc, suite à...
Donc vous vous retrouvez devant les 12 médecins ?
Oui. Alors je me suis dit, simplement, je ne vais jamais m'en sortir, je vais raconter n'importe quoi. Mais non. Plusieurs médecins m'ont questionné, gentiment, d'autres m'ont examiné. Après m'avoir bien questionné, examiné, on m'a fait attendre un certain temps dans la salle d'attente du bureau médical. Et environ trois quarts d'heure après, le docteur Teddy est apparu avec un large sourire. Ça, je ne m'y attendais pas. En me disant, c'est bon, votre dossier tient la route, il a été accepté à l'unanimité. Alors là, je peux vous dire franchement, j'ai fait un bond. Je suis sorti du bureau médical en prenant tout juste le temps de dire au revoir à l'équipe de médecins. Je suis parti direct en direction du pont Saint-Michel, parce qu'il y a le pont, il y a la porte Saint-Michel, et puis la porte Saint-Joseph. Donc la porte Saint-Michel, il y a le pont Saint-Michel. Donc pourquoi le pont Saint-Michel ? Parce que je logeais en 2003 à l'hôtel Sainte-Marie. L'hôtel Sainte-Marie qui est côté porte Saint-Michel. Donc, arrivé sur le pont Saint-Michel, je me suis arrêté pour contempler les petits canards qui barbotaient dans le gavre. Là, j'ai senti une main qui m'a grippé fortement. C'était notre aumônier, abbé Roger Leteuil, de la paroisse de Saint-Georges-sur-Loire, à côté d'Angers, qui m'avait suivi discrètement, qui n'était pas au courant de la décision de la commission médicale. Il m'a dit, Serge, j'ai eu peur que tu te jettes dans le gavre. Ça fait rire, mais c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit. Alors là, je me suis mis à pleurer comme un enfant dans les bras de Roger Leteuil. Ah, ça, c'est un moment que je n'oublierai pas. Ah, ça, il me tenait dans ses bras serrés. Alors pour en revenir, donc, je suis arrivé à Compostelle.
Avant d'arriver à Compostelle, je voudrais vous poser une petite question.
Oui.
Vous avez échangé le soir où vous avez eu cette volonté de sortir de l'hôtel avec le fameux phénomène des portes ouvertes, et vous avez échangé avec l'hôtelier ou la personne à l'accueil,
oui,
qui vous avait dit, vous savez, on est à Lourdes, c'est peut-être un signe de Marie. Est-ce que vous êtes allé le revoir pour lui dire qu'il avait raison ?
Absolument. Je lui ai même offert mon petit livre.
Dédicacé, j'espère.
Dédicacé. Oui, il se rappelle de ça. Et bizarrement, c'est qu'il dit, depuis votre guérison, j'ai plein de personnes qui veulent absolument avoir la chambre 413.
Donc, vous pourriez prendre des pourcentages sur la vente de... pour les bonnes œuvres.
Amen.
Vous pourriez négocier ça. Si vous voulez, je peux tenir votre argent. Bon, excusez-moi. Oui, pardon.
Alors, justement, je voulais faire... au-delà de ce qui nous fait sourire, c'est là où l'église est très prudente. Vous avez dormi dans la chambre 413, ça aurait pu être la 277 ou la 192, ça aurait été exactement pareil. Marie voulait vous donner cette grâce de guérison. Par contre, vous avez derrière, c'est pour ça que l'église est extrêmement prudente, plein de gens qui arrivent en disant « je voulais 413 ». En gros, moi aussi je vais être bien.
Et voyez, là, on touche à la superstition.
Et voilà, on touche à la superstition, on touche à plein de choses. Et c'est pour ça que l'Église est extrême. Quelquefois, on dit, ouais, mais regardez, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On l'entend très souvent chez nos frères charismatiques et qui a l'esprit de l'Esprit Saint partout, avec des flammes dans tous les sens, du vent, de tout ce que vous voudrez, etc. Et puis, ils sont quelquefois un peu dépités parce que l'Église, elle dit, ben attendez, on va prendre un petit peu de temps. Vous avez vu, un an sans lien, sans rien du tout. Là, on commence et on dit, bon, écoutez, votre dossier tient la route, on va voir ce qu'on peut faire. Mais, et puis cette histoire de chambre 413, moi, je trouve, pour moi, c'est vraiment une sagesse extraordinaire de l'Église Et c'est la preuve qu'on ne veut surtout pas recourir au merveilleux.
Alors, vous parliez de superstition dans votre vie de prêtre, Maurice, vous parliez de superstition. Que dites-vous à ceux qui viennent vous voir en disant « J'espère que Jésus, Dieu va m'aider parce qu'il faut que je réussisse mon baccalauréat, etc. » Enfin bref, vous voyez bien le genre de démarche.
J'ai l'habitude de le raconter en plaisantant et en disant qu'au mois de juin, généralement, j'ai toutes les grand-mères qui viennent mettre des cierges pour que les petits-enfants passent le baccalauréat avec succès. Et je les déçois généralement en leur disant, vous savez, s'il n'a rien foutu, ça ne va pas changer grand-chose. Mais mettez votre cierge quand même. Mais voilà. Oui, dans notre vie de prêtre, je pense que Pierre le confirmerait, mais c'est souvent, on est souvent en face, et c'est là où il faut faire attention, et on ne peut pas jeter les gens en disant, mais qu'est-ce que vous arrêtez avec vos trucs là? Parce que derrière, il y a des souffrances. Si les gens ont besoin de recourir à ces choses-là, c'est que derrière, il y a des souffrances. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, parce qu'alors, au bon, on pourrait dire que je suis gâté, mais avec, on en est à la 25e vache qui est en train de mourir, parce que vous vous rendez compte, le diable, la voisine, le toujours, il y a toujours une voisine qui veut absolument les bénéfices. Il faut d'abord accueillir la parole et accueillir la souffrance, et puis voir ensuite comment on peut avancer.
Oui, mais si l'Église peut répondre à ce genre d'interrogation et d'interpellation, le père Riton en sait quelque chose, il était prêtre exorciste, donc l'exorcisme, elle fait partie aussi de l'acte religieux.
Complètement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas voulu être exorciste sur le monde, parce que, d'abord, je savais que je n'allais pas rester très longtemps, et puis, en plus, c'est vraiment toute une démarche qui doit être prise en compte pendant un certain nombre d'années, que vous connaissez cela, que l'actuel exorciste du diocèse, le père Hervé Destrée, ont vécu de manière à, justement, entrer dans un discernement. Un exorciste, il travaille avec une équipe qui l'aide à discerner où on en est entre un certain nombre de phénomènes et le travail de Satan. Ça, c'est sûr. Mais là, dans ce que l'on vit, c'est marrant de voir effectivement tout de suite, dès qu'il y a un moment extraordinaire où le ciel vient toucher la terre à travers ce que Serge a vécu, eh bien, il y a tout de suite derrière un risque de déviation, et c'est là où l'Église essaie d'être très prudente. Elle accueille avec grande joie, puis après, elle met des petites barrières.
Patrick, vous vouliez intervenir là-dessus ?
Oh, juste un mot. Effectivement, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut un petit peu insister, sur la prudence de l'Église. On entend tellement de choses à gauche, à droite, sur les miracles. Et vous évoquiez la question des exorcismes. Il y a deux sujets difficiles à traiter. Les miracles et Satan. Les miracles et le diable. On entend tout et n'importe quoi. Il suffit que vous alliez sur votre ordinateur ou sur une tablette, sur Google, tapez miracle, tapez diable, et vous allez voir ce qui va vous sortir. On est dans la confusion, je pense, sémantique la plus totale. L'Église, elle met, je parle sous votre contrôle, hein, l'Église, elle met ses pas sur ceux de Jésus. Jésus, dans l'Évangile, il n'est pas dans une position favorisant le merveilleux. On n'est pas dans le tout merveilleux. Il y a quatre évangiles qui sont dits canoniques, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis, il y a d'autres textes qu'on dit apocryphes qui n'ont pas été reconnus par l'Église, qui ont été écrits plus tard. Eh bien, ces textes apocryphes regorgent de merveilleux. Regorgent de merveilleux. Je pourrais vous multiplier les exemples, en particulier sur l'enfance de Jésus, etc. Bon. Tout ceci, l'Église exerce une très grande prudence, comme Jésus dans les évangiles a exercé une prudence en disant, par exemple, de manière très concrète, faites attention à ses disciples, faites attention à ceux qui vont venir vers vous en se disant des prophètes, hein, des magiciens de toutes sortes, et dans les populations qui croisent Jésus et les apôtres, vous avez un certain nombre de personnes à cette époque en Palestine qui se revendiquent simplement comme des magiciens. Hein, je pense à Simon le magicien en particulier, mais il y en a bien d'autres. Donc on est un peu aujourd'hui, en 2023, on est un peu dans la même situation. Vous voyez, je pense qu'on est dans la même situation. Et puis il y a un dernier point que je voudrais juste ajouter. Le miracle, c'est une idée, un concept religieux, théologique. Quand un médecin, comme pour François, dit « nous, en l'état actuel des connaissances, je fais machine arrière, je ne peux rien dire, je constate simplement qu'en l'état actuel des connaissances de la médecine, le phénomène qui a été étudié, qu'on me présente, je suis incapable de lui donner une cause naturelle. » Mais, du moins publiquement, le médecin ne va jamais dire « c'est un miracle ». Qui va dire que c'est un miracle ? L'Église, par la voix des évêques. Et ça, je crois que c'est une chose, à mon avis, importante, sur laquelle il faudrait insister.
Je reviens d'un mot sur ce que vous avez évoqué s'agissant du diable et de cette problématique de Satan. Je vais faire l'avocat du diable, du coup. C'est, vous avez écrit, je le disais en introduction, un livre sur les cas de hantise en France. Mais vous prêtez le flanc à ces histoires-là.
Oui, c'est possible. J'ai pourtant, dans le texte, essayé tout de même de poser quelques jalons, en particulier en essayant de distinguer le bon du mauvais. C'est très difficile, on juge l'arbre à ses fruits, tout de même. On juge l'arbre à ses fruits, et les fruits spirituels, évidemment, sont au rendez-vous, pleins et généreux. Donc, ce qui n'est pas le cas des hantises, mais les phénomènes des hantises, de hantises ou d'autres sortes, ce sont des choses qui ont été colportées à travers des récits, en Occident et en Orient d'ailleurs, depuis des siècles. Donc c'est un fait également que l'on doit pouvoir étudier.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous pensez quand vous parlez de hantise ?
Oui, hantise. Alors la hantise, c'est lié à toutes ces manifestations dites d'esprit. Vous voyez ? Hantise, fantôme, poltergeist, spectre, etc. Ce sont des choses qu'on trouve au sein de la culture occidentale, et donc de tradition judéo-chrétienne, depuis, j'allais dire, le Moyen-Âge, mais même déjà bien avant. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Alors, vous citiez le cas de la voisine avec les 25 vaches, ou 20, je ne sais plus. Eh bien, voilà, il y a des gens qui voient des fantômes et qui voient le diable derrière chaque platane, si j'ose dire, ou qui voient la Vierge derrière chaque arbre aussi, ou l'archange Saint-Michel. Donc ça, l'Église, eh bien oui, je pense que non seulement elle doit, c'est sa mission, et si l'on peut l'aider d'une manière ou d'une autre, eh bien, voilà.
On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais bien que finalement, c'est, on revient aussi à la notion du miracle. Il faudrait que Serge puisse nous continuer son récit, parce que il nous a raconté donc, cette rencontre étonnante, surprenante, dans un premier temps avec les médecins, et puis on vous a laissé sur les bords du Gard où vous étiez prêt de vous suicider.
Non.
C'est ce que pensait l'aumônier.
Je n'avais pas l'intention. Honnêtement, j'étais un peu perdu. Je ne savais plus où j'en étais. Je ne m'attendais pas du tout à être reconnu déjà par la commission médicale. Ça, c'est une chose. Et là, c'est pour ça que je suis parti directement, arrivé sur Pont-Saint-Michel, comme je vous le disais, je me suis arrêté pour contempler les canards qui barbotaient. C'est là que notre aumônier m'a sauté dessus en me disant « Serge, j'ai eu peur que tu te jettes dans le gap. » Je le revois souvent, Roger Le Teuil, notre aumônier, on en parle souvent de ça.
Et alors, c'est à partir de ce moment-là que votre nouvelle vie commence,
absolument. Alors donc, il faut savoir que je suis hospitalier brancardier de Tours depuis 1992, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'étais hospitalier avant d'être malade, parce que j'ai tombé malade en 97. Et là, de 1992 jusqu'en 2002, j'ai toujours participé au roulage des malades, même si durant toutes ces années de mon handicap, de 1997 à 2002, j'étais handicapé. Je m'occupais quand même du roulage des malades, je m'occupais de rassembler le nombre de petites voitures bleues pour les malades, de trouver des rouleurs à l'accueil Notre-Dame parmi les hospitaliers de l'Anjou, parce que Dieu sait si on en avait, aujourd'hui on nous en manquons. Donc je m'occupais des animations à l'hôtel, enfin, d'aider notre prêtre avec Florent Gérardot. Hein, je m'occupais de tout ça. Depuis 2003, donc, je suis à l'accueil Notre-Dame en chambre avec les malades. 2003, 2004, 2005, j'étais au service des personnes âgées lors de nos pèlerinages diocésains à Lourdes. Et de 2006 à 2013, durant ces 8 années, alors, j'étais au service des enfants et adolescents malades. Il faut se dire que mon épouse, à l'époque, elle gardait des enfants malades, pas des enfants malades, mais elle gardait des enfants, elle était nourrice agréée. Donc, j'aimais bien les enfants. Quoi. Alors, c'est pour ça que je m'étais mis au service des enfants et ados. Il faut savoir que depuis 2014, je suis de retour, je suis toujours hospitalier de Lourdes, mais en hôtel, je suis de retour en hôtel. Hein. Alors vous me direz, pourquoi les enfants et adolescents malades? Ben, je vais vous dire, hein. Vous allez voir, c'est un rapport avec Compostelle. J'ai une petite fille qui, à l'époque, un soir en rentrant du collège de Saint-Pierre-Montélimar, côté de Cholet, elle rentre et elle me dit, elle avait 12 ans à l'époque, aujourd'hui elle en a 3, pour rien. Et elle me dit, tu sais, papy, il y a monsieur et madame Robineau de Landemont, ils sont venus au collège de Saint-Pierre-Montémar, Landemont, c'est à côté de Nantes. Ils sont venus au collège de Saint-Pierre-Montémar, ils nous ont présenté une vidéo des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'ils ont parcouru avec un âne et leurs enfants. Elle me dit, tu sais, c'est trop beau, les chemins de Saint-Jacques. Alors là, je peux vous dire, franchement, ça fait clic. J'ai le déclic complet. J'ai dit, mais oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Parce que j'ai cherché longtemps, comment remercier Marie. C'est vrai, j'accompagne bien les malades à Lourdes, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Alors là je me suis plongé dans les topo-guides, les randos éditions. J'ai étudié le fameux GR65, dont la première personne à effectuer le périple fut l'évêque Monseigneur Goldeskac, qui est parti du Puy-en-Velay en 1950, avec son âne et ses serviteurs pour rallier Saint-Jacques. Et c'est de là qu'est né le tout premier chemin de Compostelle, le GR65 pour la France et le Camino Frances pour l'Espagne.
Le long du parcours, à l'arrivée, en tout cas, il va y avoir un autre signe étonnant, j'aimerais que vous nous racontiez.
Je me suis plongé dans les topo-guides, les rangs d'édition, j'ai étudié le GR65, toutes les étapes les unes après les autres, l'hygiène de vie rigoureuse du pèlerin, parce que tout est important. Et puis je suis parti le dimanche 26 août 2007 de la cathédrale du Puy-en-Velay, après la bénédiction des pèlerins et m'être recueilli au pied de la Vierge de Marie. Pour arriver, je pourrais vous raconter le traversée du désert de la Mésette et ainsi de suite. Mais... Donc pour arriver, 56, le samedi 20 octobre à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Combien de kilomètres?
Vous allez voir. Alors en arrivant le samedi 20 octobre, j'ai fait tamponner ma crédentiale. Crédentiale, c'est le passeport du pèlerin, qui est remis par l'Église. Lorsque j'ai vu 20 octobre tamponner sur ma crédentiale à la cathédrale de Saint-Jacques, j'ai dit, c'est pas possible. 20 octobre. Ma petite fille, qui m'a mis sur le chemin de Saint-Jacques, elle seule m'a mis sur le chemin de Saint-Jacques, apprend 14 ans aujourd'hui. C'est pas beau, ça. Alors là, je peux vous dire, franchement, j'ai versé des larmes.
Mais dites-donc, vous pleurez beaucoup.
Ah, mais je pleure. Mais certainement, c'est l'émotion. Alors, je suis allé me recueillir au pied de l'autel pour remercier Saint-Jacques, la Vierge Marie, les anges et tous les saints, le Seigneur notre Dieu, de m'avoir protégé durant ces 56 jours de marche, vous voyez, sur 1600 km, avec pas même une ampoule, pas même une tendinite, pas même un mal de tête. Je m'étais donné, avant de partir, 70 jours pour arriver. Je n'en ai mis que 56. Et il faut savoir que les 10 derniers jours avant d'arriver, j'ai été pris d'une force surnaturelle au fond de moi-même. Une force qui m'a fait avancer plus vite, toujours plus vite, toujours plus loin. Je me suis mis à griller les étapes. Et là, alors que j'étais en plein milieu du désert de la Meseta, il faisait 40 à 45 degrés, je me suis mis à griller les étapes. Je parcourais deux étapes dans la même journée, entre 45 et 50 km à pied par jour, avec mon sac à dos de 14 kg.
Et pendant
ces 10 derniers jours, écoutez bien, à certains moments de la journée, je ressentais la présence de la Vierge Marie à mes côtés, telle que je l'avais ressentie dans le couloir de l'autel authentique. Je peux vous dire franchement que c'est vrai.
Merci en tout cas, merci Ina. On respecte le timing. Charlotte Tourguenec m'avait dit jusqu'à 21h15. On est à 21h15. C'est un vrai miracle de respecter le timing. Maintenant, c'est à vous de, si vous le souhaitez, pour terminer et conclure ce dialogue passionnant.
J'aurais voulu quand même vous dire quand même une petite chose, parce que ma guérison a été reconnue par le CMIL le 1er décembre 2008. Le CMIL, c'est Comité Médical International de Lourdes. Les guérisons sont reconnues par le CMIL, ils sont envoyés aux évêques des personnes concernées. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est Mgr Delmas, notre évêque d'Angers, lorsqu'il est arrivé comme nouvel évêque à Angers, il a découvert mon dossier et a reconnu ma guérison au nom de l'Église. Le 27 mars 2011, après avoir réuni une commission canonique, il a reconnu ma guérison à l'abbaye Notre-Dame des Gardes, à côté de Cholet. Et suite à tout ça, j'ai fait la promesse de rester fidèle auprès des malades, chose que je m'efforce de faire. C'est vrai. Suite à la reconnaissance par Mgr Delmas, j'ai effectué à nouveau par le CMIL, quoi. J'ai effectué une nouvelle fois le parcours vers Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Je suis parti cette fois en 2015 pour Compostelle. J'ai parti de Lourdes, du pied de la grotte là.
Votre prochaine marche, c'est quoi?
Le Mont-Saint-Michel.
Voilà.
Mais c'est déjà fait.
Merci Serge-François, merci Patrick Pierrot et merci Don Maurice. Je crois que vraiment je vous remercie, vous applaudir pour ces témoignages magnifiques. Alors, peut-être avez-vous quelques questions pour prolonger cette discussion.
Vous avez dit que chaque année, il y a un nombre considérable de miracles, de gens qui se disent miraculés. Mais, vous avez dit aussi que le bureau médical n'a reconnu depuis 1858
71
que
71 guérisons.
Le bureau médical prend en compte un certain nombre de dossiers, mais avec des critères très précis.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez... Alors, ces critères très précis, c'est justement pour ne pas s'embarquer dans du n'importe quoi. Alors, pouvez-vous, les uns ou les autres, nous rappeler quels sont les critères qui permettent de prendre en compte le dossier?
Le premier critère, c'est ce que je vous disais. La première année, vous déclarez votre guérison, la première année sur la transition. Moi, je ne le savais pas. Mais vous ne devez prendre aucun médicament antidouleur. Et ça, je ne le savais pas, on ne me l'avait pas dit. Et je n'ai pas eu besoin de prendre de médicaments. Et ça, c'est important.
Juste un mot. En fait, les critères qui sont ceux du bureau médical de Lourdes, encore aujourd'hui, remontent leur origine, c'est milieu du XVIIIe siècle. Bon, un mot là-dessus. Au XVIIIe siècle, il y a un pape qui restait célèbre, Benoît XIV. Pas confondre avec Benoît XVI. Benoît XIV. Et Benoît XIV a édicté un certain nombre de règles, de normes qui sont restées avec quelques ajustements, mais qui sont restées dans leur esprit, celles du bureau médical de Lourdes. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a, je vais en citer deux ou trois. Il faut que la guérison soit totale, complète, subi sans séquelles, et qu'elle soit une guérison touchante, j'allais dire du matériel, c'est-à-dire des organes, du corps. Le psychisme, les dépressions nerveuses, les déséquilibres mentaux, enfin tout ce que vous voulez, ne sont pas pris en compte actuellement, bien sûr, par le bureau médical. Donc là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement tangible, d'extrêmement rigoureux. Et vous en faites partie.
Alors, le nombre de miracles reconnus, effectivement, ne correspond pas du tout au nombre de miracles qui ont eu véritablement lieu. Et à un moment, effectivement, vous avez demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé vous faire reconnaître? Il y a plein de miracles qui n'ont jamais été reconnus. Moi, j'ai vu une personne ayant une sclérose en plaques descendre du train sur le quai de la gare de Gap, comme ça, alors qu'elle y était allée quasiment dans les dernières rues, et résultat, elle a failli tuer son mari, qui a eu un infarctus quand il a vu sa femme descendre du train comme ça, elle ne l'avait pas prévu. C'est fini, donc bien. Donc, voilà. Et donc, des miracles, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a tous ceux auxquels l'Église ne veut pas donner, dans lesquels elle ne rentre pas, c'est effectivement tous ceux qui concernent tout ce qui est psychique, dépressif, etc. Parce que là, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas de matière. Quand on a une sclérose en plaque, quand on a ce que vous avez vu, etc., vous avez un dossier médical comme ça, ils peuvent se régaler à lire tout ça et à dire effectivement c'est incompréhensible. Face à une dépression, c'est toujours très compliqué de savoir ce qui s'est passé exactement. C'est pour ça que l'Église reste là aussi encore très prudente.
Juste un mot, et il faut dire que le bureau médical et puis la deuxième instance, le comité donc international, hein, par lequel bien sûr a transité votre dossier, se montre extrêmement rigoureux. Dans le comité international, vous avez une partie des médecins qui sont croyants, catholiques généralement, mais toute une partie également qui sont hors confession, qui sont agnostiques. Donc là, on cible une sorte d'objectivité humaine quand même, bien sûr, hein, sinon scientifique. Donc c'est quand même très 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 important. Et je suis d'accord, on ne peut pas évaluer, chiffrer les guérisons, bien sûr, depuis 1858. C'est absolument inchiffrable, par le simple fait que lorsque une personne ne se présente pas d'elle-même pour faire reconnaître, ben, le dossier, il disparaît. Juste une dernière chose, dans les dossiers médicaux, s'il manque vraiment un élément, c'est radié. Classement vertical. C'est vraiment 10 ans, hein, une dizaine d'années de suivi, d'études, avant que l'on se prononce.
Vous voulez ajouter quelque chose, Serge, là-dessus
ou... Non, il a raison. S'il manque un élément, le dossier, c'est poubelle.
Alors, juste une anecdote. La fameuse commission qui est composée donc, de médecins croyants, généralement catholiques, et ceux qui sont croyants posent un certain problème, c'est que un certain nombre de médecins se convertissent au fur et à mesure des années et qu'ils ont du mal à trouver et à changer les médecins. Le docteur Hélier qui m'avait dit ça, et je pense que aussi il m'a dit que c'était vrai.